Les penseurs chrétiens. Les penseurs chrétiens, une émission proposée par Philippe Soile, professeur de philosophie à l'Institut catholique de Toulouse.
Blaise Pascal est un des penseurs les plus profonds eu égard à la question de la mort. Non pas simplement parce qu'il se rappelle que nous sommes mortels, mais parce qu'il en explore la signification, la visée, la portée. Et en même temps, parce qu'il voit que cette question de la mort ouvre à une question plus grande. Et c'est par là qu'il est le plus profond. Je commencerai donc par rappeler deux fragments célèbres sur la mort qu'il faut lier au divertissement. Premier fragment. Nous courons sans souci dans le précipice après que nous avons mis quelque chose devant nous pour nous empêcher de le voir. La situation de l'homme, l'allée ordinaire de l'homme, est comparable à un coureur, un homme qui court, mais qui court vers un précipice. Il ignore qu'il court vers un précipice parce qu'il a mis un obstacle devant, quelque chose, qu'il croit courir vers ce quelque chose en oubliant qu'en vérité il court vers un précipice. Ce précipice, c'est la mort. Mais nous nous cachons la mort, nous la cachons en notre vue, parce qu'elle nous est insupportable, et pour passer le temps en attendant, nous allons d'un certain pas, nous courons, nous marchons lentement, peu importe ici. Mais justement, nous vivons dans le déni de l'être mortel, dans l'oubli de l'avoir à mourir. Deuxième fragment. Le dernier acte est sanglant, quelque belle que soit la comédie en tout le reste. On jette enfin de la terre sur la tête et en voilà pour jamais. Pascal fait ici référence à la fin de la vie humaine, comparable ici à une comédie, la comédie humaine, la divine comédie, il faut bien sûr se rappeler Dante et Alighieri, et il montre que le dernier acte de cette comédie est sanglant. Le dernier acte, parce que c'est la fin et que c'est, tout se termine mal à visée simplement humaine. C'est la mort. Aussi belle qu'ait été la comédie en tout ce qui a précédé, le dernier acte est sanglant. On jette enfin de la terre sur la tête et en voilà pour jamais. Donc voilà l'inhumation de l'homme, voilà la mise en terre de l'homme et celui qui était issu de la terre, ou plutôt poussière issue de la terre, se retrouve sous la terre et terre. Apparemment, cela est simplement désespérant. Mais Pascal veut au contraire nous montrer que c'est là qu'un nouvel espoir peut naître, en nous montrant que ce sans souci de notre course tient à ce qu'il a appelé déjà le divertissement. Et donc, il y a ici une surprise. La surprise, c'est que si nous courons sans souci dans le précipice, c'est par l'effet d'un oubli, par l'effet d'un étrange aveuglement. Et cet étrange aveuglement, Pascal le réfère à l'idée de péché originel, à l'idée de la chute d'Adam. Et ceci, donc, nous pouvons l'éclairer par un autre fragment qui est le suivant. « La vraie nature étant perdue, tout devient sa nature. Comme le véritable bien étant perdu, tout devient son véritable bien. » Il ajoute « Bassesse de l'homme jusqu'à se soumettre aux bêtes, jusqu'à les adorer. » Alors, c'est là un des fragments les plus profonds de Pascal. La vraie nature étant perdue, tout devient sa nature. Nous le voyons aujourd'hui, tous les jours, sous nos yeux, à savoir qu'un homme est capable d'adopter, d'acquérir n'importe quelle nature, n'importe quelle manière d'être, n'importe quel état. Et donc, il y a ici comme une plasticité de la nature humaine. Mais cette plasticité de la nature humaine n'est pas pour Pascal le signe d'une bonté, mais le signe d'une perte. C'est parce que la vraie nature est perdue, c'est la nature originaire d'Adam auprès de Dieu, que n'importe quoi, et véritablement à la limite n'importe quoi, peut faire office d'une nouvelle nature, d'une seconde nature, et nous contenter, ou plutôt nous faire croire que cela pourra nous contenter. C'est parce que le véritable bien est perdu que n'importe quoi peut devenir un bien pour nous. Par exemple, la compagnie d'un animal, par exemple de l'or, de l'argent, la domination, etc. Le véritable bien qui est perdu, c'est Dieu. Nous avons commencé par noter donc la mort, l'avoir à mourir de l'homme. Nous découvrons que ce déni de l'avoir à mourir vient d'une perte de la nature originaire. Et maintenant, donc, il faut nous tourner vers le nœud, vers la difficulté qui est... qui tient dans ce que nous avons vu déjà, à savoir la misère de l'homme, mais la grandeur de l'homme dans la misère même. Je lis un autre fragment éclairant à ce propos. « Qu'est-ce donc que nous crie cette avidité et cette impuissance ? Sinon qu'il y a eu autrefois dans l'homme un véritable bonheur, dont il ne lui reste maintenant que la marque et la trace toutes vides, et qu'il essaye inutilement de remplir de tout ce qui l'environne, recherchant des choses absentes, le secours qu'il n'obtient pas des présentes, mais qui en sont toutes incapables, parce que ce gouffre infini ne peut être rempli que par un objet infini et immuable, c'est-à-dire que par Dieu même. Voilà le génie de Pascal. Il consiste à nous faire voir, dans notre misère, dans notre soif d'être, de vérité, etc., la marque, la trace, certes vide, mais bel et bien la trace, d'une nature antérieure que nous avons perdue. Et donc la trace, qui devient maintenant l'indice, qui nous permet d'espérer une vie auprès de Dieu. Il y a donc en l'homme une impuissance que nous avons maintes fois méditée. Mais cette impuissance et cette avidité nous fait savoir que la nature de l'homme d'aujourd'hui est une nature déchue. Notre vraie nature a été perdue et la nature plastique qui est dorénavant la nôtre, cette nature plastique qui nous rend capable de n'importe quoi, et en même temps, elle garde en elle justement l'aspiration à la vérité. Il y a donc une grandeur de l'homme jusque dans sa misère ultime. Il reste aujourd'hui seulement la marque et la trace toute vide de cette nature et de ce bonheur véritable. Le bonheur véritable, vous le devinez bien, pour Pascal, ce sera la vie auprès de Dieu, la vie en Dieu, et pas seulement devant Dieu. Que fait l'homme en attendant? Eh bien, il essaie inutilement de remplir le vide qu'il ressent en lui-même par n'importe quel moyen, par n'importe quel objet. Il voit bien qu'il y a des choses qui sont présentes. Il sent bien que ces choses présentes se dérobent à sa prise, que l'on croit saisir et que l'on ne peut pas saisir, et que l'on espère obtenir, mais qu'en vérité, ce que nous cherchons, ce ne sont pas les choses, mais la recherche des choses. Cela, nous l'avons médité tantôt. Nous ne cherchons pas les choses, mais la recherche des choses. Par conséquent, nous sommes toujours mécontents. Et c'est pourquoi, expérimentant la défaillance des choses présentes à nous donner de la joie, nous recherchons une joie qui pourrait venir des choses absentes. Mais les présentes, aussi bien que les absentes, sont incapables de nous donner l'être, la plénitude, la sérénité, la joie. Que découvre l'homme à la place? Il découvre un gouffre infini. C'est une des paroles les plus fameuses de Pascal, le gouffre infini. Charles Baudelaire se rappellera en disant « Pascal avait son gouffre ». Eh bien, en fait, c'est tout homme qui a son gouffre. Ce gouffre infini, c'est ce qu'est l'homme pour lui-même. L'homme a ses propres yeux. Un gouffre infini, un abîme sans fond. Et nous avons ici une réminiscence de saint Augustin. Saint Augustin qui faisait observer à l'avare qui voudrait posséder tout l'or du monde que son désir est minuscule, beaucoup trop petit, qu'il lui faut augmenter, élargir, agrandir son désir. Pourquoi ? Parce que dès lors que le désir de l'homme est infini, dès lors qu'il y a en l'homme un gouffre infini, seul un objet infini et immuable pourra remplir ce gouffre. Cela veut donc dire que l'homme est taillé non pas pour se contenter d'une chose finie aussi belle soit-elle, mais seulement pour se contenter de Dieu, c'est-à-dire pour trouver sa joie en Dieu. Et là, nous basculons à une autre dimension de la pensée de Pascal. Je lis maintenant un nouveau fragment qui nous prépare à la méditation d'une des plus belles pages de Pascal, qui sera... ces pages consacrées à la joie véritable qui sera la joie de l'homme avec Dieu. Je lis. « Il n'y a que trois sortes de personnes, les unes qui servent Dieu l'ayant trouvé, les autres qui s'emploient à le chercher ne l'ayant pas trouvé, les autres qui vivent sans le chercher ni l'avoir trouvé. Les premiers sont raisonnables et heureux, les derniers sont fous et malheureux, ceux du milieu sont malheureux et raisonnables. » Texte tout à fait fascinant. Donc il n'y a que trois sortes d'êtres humains sur la terre. Les premiers, Pascal commence par les saints. Les saints sont ceux qui, parce qu'ils ont trouvé Dieu, vivent de l'amour de Dieu, aux deux sens du terme, de l'amour que Dieu a pour eux et de l'amour par lequel ils répondent à cet amour premier de Dieu. Ceux-là sont raisonnables et heureux. Nous retournons le raisonnable, parce que nous le retrouverons plus tard. Il faudra nous demander ce que signifie ce raisonnable. Raisonnable signifie bien ici quelque chose qui repose sur la raison, et en même temps quelque chose qui transcende la raison. Ces hommes sont raisonnables et heureux. Deuxième catégorie de personnes, ce sont les personnes qui n'ont pas trouvé Dieu, mais qui le cherchent, comme quelqu'un qui cherche dans les ténèbres à tâtons et qui espère qu'il y a un Dieu. Mais c'est une espérance vides pour l'instant, comme une trace nue, n'ayant pas trouvé ce Dieu, elles espèrent qu'il existe. Ces hommes-là, évidemment, sont malheureux, n'ayant pas trouvé Dieu, mais sont raisonnables, raisonnables maintenant au sens de capables de raison, puisqu'ils ont été attentifs à l'appel de la raison qui leur fait chercher Dieu. Donc nous voyons dès maintenant que la raison n'est pas à négliger, n'est pas à mépriser chez Pascal. C'est bien par la raison, et par la raison ici comme raison naturelle, que nous serons conduits à chercher Dieu. Ceux donc qui ont cherché sans trouver sont capables de raison, ont écouté la raison, mais sont malheureux parce qu'ils ont échoué dans leur quête. Reste la troisième sorte d'hommes, eh bien ce sont ceux qui vivent sans chercher Dieu et sans l'avoir trouvé. Alors, paradoxalement, on pourrait dire qu'il pourrait l'avoir trouvé sans l'avoir cherché, et cela est arrivé à plus d'un. Mais cependant, Pascal ne parle pas de cela, il parle de ceux qui simplement vivent dans l'oubli complet, dans le déni complet. Ils ne trouvent pas Dieu parce qu'ils ne le cherchent pas. À quoi en s'emploie-t-il ? Eh bien, nous l'avons vu, il s'emploie au divertissement, il s'emploie à cette agitation superficielle. Alors, cela ne veut pas dire, il faut y insister, que Pascal nous demande d'être toujours tendu dans la recherche de la vérité. Nous pouvons très bien avoir des heures de relâche, de divertissement au sens vulgaire du terme, c'est-à-dire d'amusement, etc. Mais tout cela reste raisonnable tant que cela n'est pas une façon de nous détourner de l'amour de Dieu, tout simplement. Donc, les derniers qui vivent sans chercher Dieu et donc sans le trouver, ceux-là sont fous et malheureux. Vous voyez donc ici le contraire de la raison, c'est une forme de folie, c'est la folie de celui qui croit raisonnable de vivre sans la raison, qui croit raisonnable de vivre en utilisant sa raison que pour des petits calculs de plaisir, de rapport qualité-prix, rapport de retour sur investissement, tous les calculs dont nous sommes coutumiers dans la société de consommation. Ces hommes-là sont fous, ils ne font pas confiance à la raison, ils n'écoutent pas la raison qui leur prescrit de chercher Dieu, et ils sont malheureux. Pourquoi ? Parce que ils ne sont pas heureux dès lors qu'ils sentent incessamment le néant de leur être, dès lors qu'ils expérimentent l'avoir à mourir, et ils font, nous l'avons vu maintes fois, tout justement pour écarter de leur vue le tombeau.
Les penseurs chrétiens. Philippe Soil, professeur de philosophie à l'Institut catholique de Toulouse.
En lisant Pascal, nous pourrions croire que la raison occupe une place misérable ou subordonnée chez lui. En vérité, elle occupe une grande place. Que dit-il ? Il n'y a rien de si conforme à la raison que ce désaveu de la raison. Autre fragment capital. La dernière démarche de la raison et de reconnaître qu'il y a une infinité de choses qui la surpassent. Elle n'est que faible si elle ne va jusqu'à connaître cela. Que si les choses naturelles la surpassent, que dira-t-on des surnaturelles ? Je commencerai par le dernier point. Pascal est contemporain de la découverte de l'infini en mathématiques, l'infini positif, découvert par Descartes. Pascal est un géant de la mathématique, nous le savons. Eh bien, voilà un Pascal qui voit que l'homme a l'idée de l'infini, mais que précisément l'infini est quelque chose qu'il peut connaître sans pouvoir le comprendre. Donc nous avons en nous des idées qui surpassent notre capacité de les expliciter et de les comprendre. Il y a donc dans les choses naturelles, ici les nombres, l'infini positif, quelque chose qui surpasse la puissance de la raison. Regardons maintenant l'univers, cet univers de la physique moderne qui est infini ou indéfini si on parle avec Descartes, cet univers que nous explorons et nous découvrons dans l'ordre des corps, des virus, des étoiles, des trous noirs dans notre langage, bien sûr Pascal ne les connaît pas, mille choses qui surpassent notre capacité de compréhension. Donc ici, Pascal rabat l'orgueil de la raison humaine. Voilà la raison humaine qui pourrait être orgueilleuse et croire qu'elle connaît tout. Pascal est ici extrêmement fin parce qu'il montre aux physiciens de son temps, aux mathématiciens de son temps et finalement de tous les temps, qu'il y a des choses dans la nature, dans l'univers physique, qui surpassent nos capacités de connaissance. Et Pascal, avec beaucoup de finesse, montre qu'il y a ensuite, dans l'ordre des choses surnaturelles, des choses qui regardent Dieu, à savoir la Sainte Trinité, l'unité absolue de trois personnes qui forment une seule et même divinité, l'incarnation de la seconde personne de la Trinité en Jésus-Christ, la résurrection des morts. Il y a bien là des choses qui surpassent tout à fait nos capacités de compréhension, des choses qui ont été nommées des mystères. Alors, simplement, l'attitude de Pascal est extrêmement subtile parce que il commence par montrer, je viens de le dire, qu'il y a des choses naturelles qui surpassent nos capacités de connaître. Il enchaîne en montrant qu'il y a alors, et par excès, des choses surnaturelles qui surpassent aussi nos capacités de connaissance. Alors, quel est alors le statut, la position de la raison ? Eh bien, la raison, loin d'être orgueilleuse, doit être humble. Et la démarche d'humilité de la raison consistera à comprendre qu'il y a une infinité de choses qui la surpassent. Vous noterez que c'est la dernière démarche de la raison. C'est-à-dire que la raison commence ses démarches en cherchant ce qui est en son pouvoir, ce qui relève de sa juridiction. Et cela, elle peut l'explorer, elle doit l'explorer. Nous retrouvons là, bien sûr, un écho des règles pour la direction de l'esprit de René Descartes. La raison commence par explorer ce qui est sous son autorité. Mais en montant les degrés de la connaissance, de l'échelle de la connaissance, elle arrive au dernier échelon, elle arrive donc à la dernière démarche. Je noterai au passage que c'est une démarche de la raison. Ce n'est pas la raison qui se ferme et qui se tait et qui laisse parler je ne sais quoi de transcendant, c'est la dernière démarche de la raison. C'est la raison elle-même qui opère ce dernier acte. Et le dernier acte de la raison en tant que tel est de comprendre l'incompréhensible, de se tourner vers ces choses incompréhensibles dans l'ordre de la physique et dans l'ordre, bien sûr, de la métaphysique. Pascal insiste sur le fait que la raison n'est que faible si elle ne va jusqu'à connaître cela. On pourrait l'objecter qu'au contraire, elle est puissante parce qu'elle sait ce qui relève de sa juridiction et elle explore. Elle fait de la physique, de l'astrophysique, de la chimie, des mathématiques, de la politique. Elle est extrêmement puissante, cette raison. On pourrait donc parler de puissance du rationnel. Mais une raison qui ignore ses limites, une raison qui ignore son dernier acte, à savoir une raison qui ignore qu'il y a quelque chose qui la transcende, cette raison, en fait, en vérité, est faible. Pourquoi ? Faible déjà parce qu'elle ne s'ouvre pas à ce qui la transcende, elle ne le reçoit pas pour le penser, mais faible aussi par contre-coup parce qu'elle risque de gâter ce qui relève de sa juridiction. En se rendant aveugle à ce qui la transcende, elle risque de se rendre aveugle à ce qui est sous son autorité. Et nous voyons ici l'articulation entre la raison et la foi chez Pascal. La foi n'est pas purement et simplement irrationnelle, au-delà de la raison, étrangère à la raison. La foi peut et doit être d'une certaine façon fondée dans la dernière démarche de la raison. La raison conduit et se conduit elle-même en conduisant à recevoir des vérités qu'elle ne peut pas produire elle-même, qu'elle ne peut pas établir elle-même, mais des vérités qui, si elles lui sont données, sont telles que la raison peut les explorer, peut les tâter, j'oserais dire, peut essayer d'y toucher quelque chose, au sens déjà où, d'ailleurs, Aristote parlait de toucher l'être. Voilà, toucher l'étang. Voilà le véritable statut de la raison. Voilà la véritable grandeur de la raison humaine. C'est pourquoi Pascal aussi ajoute « soumission et usage de la raison ». En quoi consiste le vrai christianisme ? Le christianisme n'est pas ennemi de la raison, le christianisme n'est pas ennemi de la rationalité, il demande au contraire le véritable et le plein usage de la rationalité. vrai usage de la raison. Et en même temps, soumission de la raison. En quoi soumission de la raison et à quoi soumission de la raison? Eh bien, soumission de la raison par le dernier acte de la raison elle-même qui découvre des vérités qu'elle ne peut que recevoir et une fois qu'elle les a reçues, qu'elle peut explorer, expliciter, mais qui reste pour elle ce qui s'appelle des mystères. C'est-à-dire quelque chose qui garde de l'obscurité pour la raison humaine. Cela nous conduit donc au seuil de la religion. Nous pouvons lire maintenant un fragment magnifique de Pascal sur l'aveuglement de l'homme et qui montre la relation entre la condition misérable de l'homme et son ouverture à la religion. C'est un passage écrit en première personne et il est patent que c'est Blaise Pascal lui-même qui parle. Je lis. « En voyant l'aveuglement et la misère de l'homme, en regardant tout l'univers muet, et l'homme sans lumière, abandonné à lui-même, et comme égaré dans ce recoin de l'univers, sans savoir qui l'y a mis, ce qu'il est venu y faire, ce qu'il deviendra en mourant, incapable de toute connaissance, j'entre en effroi. Comme un homme qu'on aurait porté endormi dans une île déserte et effroyable, et qui s'éveillerait sans connaître où il est et sans moyen d'en sortir. Et sur cela, j'admire comment on n'entre point en désespoir d'un si misérable état. Je vois d'autres personnes auprès de moi, d'une semblable nature. Je leur demande s'ils sont mieux instruits que moi. Ils me disent que non. Et sur cela, ces misérables égarés, ayant regardé autour d'eux et ayant vu quelques objets plaisants, s'y sont donnés et s'y sont attachés. Pour moi, je n'ai pu y prendre d'attache. Et, considérant combien il y a plus d'apparence qu'il y a autre chose que ce que je vois, j'ai recherché si ce Dieu n'aurait point laissé quelques marques de soi. » Voilà, magnifique fragment pascalien. Nous retrouvons là mille choses lues auparavant, à savoir donc cette misère de l'homme, l'abandon, le désespoir de l'homme qui se découvre dans un univers infini sans comprendre ce qu'il vient y faire, et qui découvre que sa grandeur est dans la pensée, et qu'en même temps cette pensée a ses infirmités aussi. Voilà donc un homme qui est face à la mort, incapable de toute connaissance de la vérité, puisqu'il lui reste, seulement une idée de la vérité, une idée toute nue. Cet homme entre en effroi. Comparaison, on peut penser à Robinson évidemment, un homme avec un homme qui se réveillerait tout seul sur une île et sans moyen d'en sortir, captif. Voilà donc l'homme dans un cachot, dans une île déserte, tout seul. En vérité, il n'est pas seul. Il s'aperçoit qu'il y a d'autres autour de lui qui sont dans la même situation que lui. Mais voyez ici, Pascal insistait sur le fait que l'homme qui se découvre dans une telle situation sera naturellement, selon la seconde nature bien sûr, porté au désespoir. Et l'étonnement ici chez Pascal, c'est l'étonnement que l'homme ne soit pas désespéré de son état, de sa condition. J'interroge alors mes voisins, je leur demande s'ils sont mieux instruits que moi, s'ils savent des choses que je ne sais point, s'ils ont une science que j'ignore. Leur réponse est négative. Ce sont des égarés. Évidemment, on ne peut pas ne pas penser ici à Maïmonide, le guide des égarés. Ces misérables égarés. Admirable formule pour parler de notre humanité. Mais voilà que ces égarés, loin de se sentir égarés, ou plutôt pour ne pas se sentir égarés, se sont jetés sur quelques objets plaisants, une belle voiture, une belle maison, que sais-je, et ils s'y sont donnés, adonnés et attachés. Ils se sont liés à quelque objet fini, passager, mortel, comme eux, et par là, ils sont dans le divertissement, ils pensent pouvoir échapper à ce regard nécessaire sur leurs conditions. Ils pensent pouvoir ne pas chercher d'où ils viennent, qui ils sont et qui ils seront. Confession de Pascal, « Pour moi, je n'ai pu y prendre d'attache. » Voilà donc un homme qui, de par la radicalité de son interrogation, refuse la demi-mesure, refuse l'aveuglement, l'auto-aveuglement, et cherche si Dieu n'a pas laissé quelques marques de soi. Voilà donc comment Pascal chemine, en considérant la place de l'homme dans l'univers, l'abandon de l'homme, qui devrait conduire au désespoir, mais en découvrant qu'il y a dans l'homme quelque chose d'étonnant, quelque chose d'admirable, et qui est précisément la marque de Dieu en lui. Et donc, cela veut dire que la grandeur de l'homme est la marque de Dieu en l'homme. Comme nous venons de le voir, le gouffre infini, le désir infini qui est en l'homme, est paradoxalement ce qu'on pourrait appeler une preuve de l'existence de Dieu. Le fait qu'il y ait dans l'homme, à la différence de l'animal, un gouffre infini, un désir infini, est la marque que Dieu a laissée, en s'en allant, j'allais dire, la marque que Dieu a laissée en nous, dans l'absence dans laquelle nous sommes d'une certaine façon, dans l'absence visible en tout cas, et cette trace, aussi douloureuse qu'elle soit, est pour nous la marque de Dieu en nous.